Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct de Niamey par un réseau dynamique de 34 radios partenaires couvrant toutes les capitales régionales ainsi qu'une vingtaine de départements du pays. À Niamey, pour nous suivre, vous pouvez capter Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangou. Notre site internet, www.studiokalangou.org. Le forum du Studio Kalangou, c'est cette émission radiophonique à travers laquelle nous vous amenons à la rencontre des spécialistes et personnes ressources afin de vous aider à trouver des éléments de réponse aux questions d'actualité et de société que vous vous posez régulièrement. Ce soir, nous vous proposons les missions de l'Organisation internationale pour la migration OIM au Niger, avancées, contraintes et perspectives. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, est une agence intergouvernementale basée à Genève qui joue un rôle prépondérant dans la gestion des flux migratoires et contribue à la promotion des droits des migrants. Qu'est-ce qu'un migrant? Quels sont les principaux droits des migrants? Quelle est la situation actuelle des migrants au Niger? Quelles sont les actions de l'Organisation internationale pour la migration au Niger, pays d'accueil, de départ et de transit pour des centaines de milliers de migrants? Quelles sont les causes de la migration irrégulière? Quelles solutions propose l'OIM pour y remédier? C'est tout cela que nous verrons avec le chef de mission de cette organisation au Niger, Monsieur Giuseppe Lopret, qui est l'invité du forum de ce soir. Monsieur le chef de mission, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, Michel Dégé. Monsieur le chef de mission de l'OIM, pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'organisation que vous représentez au Niger?
Bien sûr, merci pour l'invitation. L'Organisation internationale pour les migrations, est, depuis septembre 2016, est devenue une agence des Nations Unies. Mais l'organisation elle-même est née en 1951, donc après la Deuxième Guerre mondiale, comme l'autre commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Donc, en même temps, donc une organisation était dédiée à la migration déjà à l'époque et l'autre aux réfugiés. Donc ce sont des agences sœurs, comme tous les qui font du travail et pour les populations dans les besoins. Et au Niger, on est présent depuis 2006. Et maintenant, en 2018, on a à peu près 350 staffs qui sont déployés dans toutes les régions du Niger. On a 6 centres de transit, on a des régions, sous-bureaux dans toutes les régions. Donc, c'est une organisation très large, bien présente sur les territoires, pour travailler avec les migrants et avec les communautés locales.
Monsieur le chef de mission, quels sont les pays membres de l'OIM?
Presque tous les pays du monde sont membres de l'OIM. On a 169 à ce moment. Donc, les derniers pays, grands pays qui sont devenus membres, c'est la Chine, par exemple, et le Brésil, il n'y a pas longtemps, mais tous les pays de l'Union européenne, tous les pays de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, seulement la Guinée équatoriale n'est pas membre de l'OIM.
Est-ce à dire qu'il faut que le pays soit membre de l'OIM pour que vous puissiez intervenir?
Exactement. Pour établir la présence sur le territoire, on est invité toujours par les gouvernements. Et on peut, après ça, on peut s'établir. On a un protocole d'accord, comme les missions diplomatiques. Et à partir de ce moment, on peut commencer à opérer dans les pays. Donc, en réalité, l'OIMP opère presque dans tous les pays du monde.
Monsieur le chef de mission, pouvez-vous nous donner des précisions sur vos domaines d'intervention au niveau de l'OIM?
Il y a plusieurs domaines d'intervention, surtout ici au Niger. C'est un pays, en réalité, clé pour la migration, pas seulement pour la migration en Afrique de l'Ouest. On connaît très bien les répercussions sur la Méditerranée, pour l'Europe, mais aussi en tant que pays qui donne, disons, une stabilité, un équilibre aussi dans la bande sahélienne, par exemple, dans la sous-région du lac Tchad. Oui. Donc, pour toutes ces raisons, l'OIM peut intervenir soit dans les crises, dans la crise humanitaire, dans la région du Difa, depuis 2013, par exemple. Après la crise libyenne, pendant la crise libyenne en 2011, l'OIM a aidé plus de 200 000 migrants qui étaient en Libye, qui travaillaient, pour rentrer ici au Niger. Donc c'était un moment très important, disons, le moment où l'OIM est devenu une organisation plus connue aussi au Niger. Et on a des programmes aussi pour la gestion des frontières et pour qui est très important même dans une zone comme la CEDEAO où il y a libre circulation, mais il y a aussi des règles pour circuler. Et on a des projets à ce moment aussi pour la stabilisation communautaire, donc prévention de l'extrémisme violent, jeunesse et déradicalisation. Donc tout ça est lié à l'idée que toutes ces causes peuvent avoir un impact sur les mouvements forcés des populations. Donc ça peut être les changements climatiques ou l'instabilité, disons, à cause d'une crise humanitaire ou d'une crise comme celle du lac Tchad à ce moment, la 7 Boko Haram. Et donc là, soit pour prévenir, soit pour intervenir pendant la crise, l'OIM peut s'établir dans les pays et après opérer.
Monsieur le chef de mission, vous avez bien dit que l'OIM est présente au Niger depuis 2006. Qu'est-ce qui a motivé votre présence depuis cette année? On le sait bien, il n'y avait pas beaucoup de flux migratoires comme on en a aujourd'hui.
Oui, et l'OIM à l'époque, l'Afrique de l'Ouest, la position du Niger, pour toutes ces raisons, l'OIM à l'époque avait estimé qu'il fallait venir dans les pays, mieux connaître la situation, avoir des relations diplomatiques avec le gouvernement et après commencer à étudier ensemble les actions, les perspectives. Mais dans d'autres pays, et peut-être ça c'était le cas aussi au début de la mission, il y a d'autres types de migrations qui sont aussi pas seulement liées à la crise. Par exemple, les migrants économiques, la diaspora, la migration circulaire. Et on sait que dans l'Afrique, la migration circulaire, donc d'un pays vers l'autre et après le retour, presque les 80% de toute la migration. Donc déjà, il y avait des causes et des raisons très, très bien, très claires pour venir au Niger. Et après ça, on a la situation a évolué. Il y a eu la crise libyenne, et à ce moment, il y a toute la crise, encore une fois, liée à la Libye, à l'Algérie, mais aussi, je dirais, le Nigeria et Mali, qui ont toujours un impact soit sur les migrants, soit sur les flux migratoires.
Vous l'avez abordé, l'OIM a donc fait beaucoup de choses, monsieur le chef de mission, mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'OIM a pu faire d'important jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de 2006 à aujourd'hui? Autrement dit, s'il faut présenter un bilan, quel serait le bilan de vos actions?
Oui, bon, je parle aussi à titre personnel, que je suis arrivé au Niger en 2014, donc quand même, je connais bien, exactement, je connais bien la situation depuis les 4 ans. C'était une situation complètement différente qu'aujourd'hui. Il y avait bien sûr la crise sur le lac Tchad, mais les flux migratoires étaient beaucoup différents. Il y avait des mouvements qui commençaient à être visibles et importants vers la Libye. Et à ce moment, on a commencé à faire de suivi des flux, on a commencé à analyser la situation. On avait déjà à l'époque des centres de transit. Aujourd'hui, on a 6, 3 à Niamey et 3 dans la région d'Agadez. Donc, un des résultats dans les derniers 3-4 ans, c'est exactement le renforcement de tous les mécanismes qui est dans les centres et autour des centres. Donc, l'assistance directe, mais aussi l'information pour les migrants, les retours volontaires, qui est quand même l'activité principale de l'OIM ici. Sur les deux routes migratoires qui sont considérées encore aujourd'hui comme les deux routes principales vers la Libye, donc vers des pays de la CEDEAO comme Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire, Nigeria, à travers Agadez et vers la Libye. Et l'autre aussi important, du Nigeria, Niger, surtout la région des Ander. Tout le monde connaît la question des femmes de Kanché et les victimes de traite. Donc là, c'est aussi notre migration qui est très, très important, et avec beaucoup de vulnérabilité, et vers l'Algérie. Donc, disons que l'activité plus importante, même aujourd'hui, est vraiment la... comment maîtriser ces flux migratoires, qu'est-ce que l'OIM peut apporter comme aide aux migrants qui sont toujours en situation de détresse dans les déserts, et surtout comment les informer et comment arriver à trouver des solutions ensemble, et par exemple les retours volontaires, mais pas seulement ça, l'intégration dans les pays ou bien d'autres cas spécifiques selon toutes les vulnérabilités des migrants.
Monsieur le chef de mission, quelles sont vos relations avec l'État et les autres partenaires?
On travaille très bien avec le gouvernement du Niger et avec toutes les autorités au niveau local et dans les régions. J'ai personnellement visité presque toutes les régions, même les zones frontalières, les gouvernorats d'Agadez, les gouvernorats de Diffa, à Zander, donc pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, donc sont des partenaires clés, les autorités traditionnelles, le sultan, encore une fois, des Zander, le sultan de l'Aïr. Donc on a des relations importantes parce qu'on travaille avec les communautés. L'OIM, comme je le disais au début, est invité dans les pays. Donc, on vient pour soutenir ce que les autorités, les présidents, les conseils régionaux, par exemple, dans toutes les régions, toutes les autorités qui ont besoin de soutien de l'OIM ou bien avec qui on peut travailler en synergie donc pour les appuyer ou bien pour faire des choses ensemble. C'est là où nous sommes et les relations sont toujours très bonnes avec une très bonne collaboration au niveau central et au niveau local. J'ai visité Dirkou, Arlit, j'étais à Arlit il y a un mois avec les maires, on a très bien échangé avec les maires de Dirkou aussi. Donc ça c'est une particularité vraiment de l'OIM, d'arriver jusqu'à la frontière, jusqu'au bout, parce que c'est là où ils sont les migrants. Donc même si la zone est très éloigné, même si, surtout au Niger, l'accès est difficile. Diffa, nord de Niger, Agadez, maintenant Tillaberi aussi, l'OIM doit se rendre et apporter son soutien aux populations locales et aux migrants qui sont parfois même coincés dans cette zone.
On voit bien que la prise en charge des migrants nécessite des moyens financiers colossaux, on peut le dire. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des aides financières, des structures de l'État, ou comment est-ce que vous-même vous arrivez à prendre en charge toutes les personnes que vous avez à votre charge, monsieur le chef de mission?
L'OIM est financé par des projets et par des bailleurs de fonds. Donc on a des partenaires techniques et financiers. Et, toutes les ambassades qui sont présentes au Niger, presque tous sont en train de nous appuyer, l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, bien sûr, la Suisse, les Pays-Bas, mais aussi les États-Unis. Donc on a toute une série de projets qui sont financés autour à plus près de 100 millions d'euros à ces moments. Donc je pense que c'est 65 milliards de francs CFA pour mener toutes les activités. Et avec les Nations Unies aussi, on a des fonds qui sont dédiés par les Nations Unies, les fonds de CERF par exemple pour DIFA, ou bien les Peace Building Fund, donc pour la paix, la consolidation de la paix. Et avec tous ces moyens, on travaille avec les partenaires pour continuer à mener les activités. Ça fait partie de notre travail d'identifier les gaps, d'établir ensemble avec les autorités quelles sont les priorités, quelles sont les gaps, faire le plaidoyer ensemble et arriver vraiment à aider tous les migrants qui sont ici et encore une fois les communautés locales.
Monsieur le chef de mission, quelles sont les difficultés que l'OIM rencontre dans ses interventions au Niger?
La migration à ce moment est très problématique. En général, c'est pas la migration qui est un problème. La migration telle que migration devrait être une source de développement. Devrait être chacun qui veut quitter sa famille et qui est en train de partir, même vers la Libye, l'Algérie ou ailleurs, Côte d'Ivoire, des autres pays, voudrait avoir voir une amélioration dans la vie. Donc ça c'est le vrai but de la migration. Les pays qui accueillent les migrants doivent aussi bénéficier de la présence, et les pays qui ont envoyé les migrants doivent aussi bénéficier. Donc c'est là la situation idéale. Malheureusement, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où les migrants vont dans les déserts, ils n'ont pas d'informations, ils pensent d'arriver en Libye dans 2-3 jours. En réalité, il s'agit de semaines, de voyages, parfois de mois. Il y a des études qui ont démontré que pour aller du Nigeria jusqu'en Italie, il faut une moyenne de 3 mois, 90 jours. Et je pense que c'est même une étude prudente, parce qu'on a rencontré des migrants qui ont fait 6 mois, 9 mois, dans toutes les différentes étapes. Donc les difficultés de l'OIM sont liées aux difficultés des migrants. Les 60% des migrants n'ont pas de papiers, aucun papier, ni carte d'identité, rien. Donc quand ils doivent rentrer chez eux, ils décident de rentrer, c'est un retour volontaire, mais l'OIM doit identifier la nationalité. Et chaque ambassade, chaque consulat qui est ici et qui travaille avec nous aussi de façon très positive. Chaque nationalité, chaque ambassade doit établir la nationalité des migrants avant que les voyages puissent s'organiser. Donc ça c'est une difficulté très pratique aussi, mais
il arrive même que l'ambassade, le pays, n'ait pas une représentation diplomatique.
Bien sûr.
Parce que ce n'est pas tous les pays qui ont des représentations diplomatiques dans le pays d'accueil ou de transit.
Oui, dans ces cas, on utilise les protocoles de la CEDEAO. Et donc, avec la direction de surveillance du territoire, on peut établir ensemble et eux ont l'autorité de signer un sauf-conduit pour quand même arriver dans les pays d'origine. C'est pas une situation idéale, parce que peut-être qu'un migrant peut dire qu'il vient d'un pays et on
ça peut ne pas être la réalité.
Exactement,
même
la réalité. On a d'autres cas qui sont avec la bonne foi, donc il n'y a pas de migrants qui veulent cacher la vérité, mais il y a des couples par exemple qui sont mariés, la femme est tchadienne et l'homme est camerounais. Ils voudraient rentrer ensemble, mais ils n'ont pas de papiers. Donc la réalité est que ni le Tchad ni le Cameroun vont accepter quelqu'un qui n'a pas...
Chacun prend son citoyen.
Exactement, chacun. Ou bien on doit faire tout le travail de retraitement des documents familiaux, l'acte de mariage, etc., pour effectivement les faire voyager ensemble. C'est un exemple, mais les mineurs non accompagnés. Il y a des mineurs, qui donc des garçons qui ont 15, 16, 17 ans et qui ne peuvent pas voyager seuls pour rentrer dans leur pays. Donc, il faut que les juges des mineurs donnent l'autorisation. Il faut faire les retracements familiaux. Donc, avant de partir, l'OIM doit savoir exactement où est la famille, qui va prendre en charge les mineurs dans ces cas. Et arriver, il y a... Presque tous les migrants sont traumatisés après ce type d'expérience. Nous, on dit même 99% sont traumatisés. Et il y a même des malades, des personnes qui ont des troubles mentaux à cause du voyage. Donc, qui sont partis, ont quitté leur pays à cause du voyage, des difficultés, les abus physiques, psychologiques, sexuels même. Et maintenant, ils ont perdu leur santé mentale. Donc, ils ne se souviennent pas de quel pays ils viennent, les noms de la famille, etc. Donc, des cas vraiment très difficiles qu'on doit traiter cas par cas et avec toutes les équipes de protection, les équipes des opérations, avant d'établir, de remplir toutes les conditions et les faire rentrer chez eux.
Nous voyons bien que c'est des difficultés immenses, monsieur le chef de mission. Puisque nous parlons des migrants, monsieur le chef de mission, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage qu'est-ce que c'est un migrant? Quand on parle du migrant, c'est quoi le migrant et quels sont ses droits?
Oui, les migrants, la définition des migrants est très large. Mm-hmm. Donc, presque chacun qui se déplace d'un pays à l'autre, mais même dans les mêmes pays, on parle par exemple des migration interne. Mm-hmm. S'il y a un déplacement d'un pays à l'autre, c'est la migration internationale.
Les déplacés, on dit, oui, à ce niveau.
Les déplacés internes sont déplacés parce qu'ils étaient dans un endroit et mm-hmm. maintenant, pour des causes de force majeure, comme les catastrophes
naturelles,
exactement, catastrophes mm-hmm. naturelles ou la guerre, par exemple, ils doivent se déplacer. Mm-hmm. Donc, mais par définition, même.
Ça veut dire qu'on peut être un migrant dans son propre pays?
Et bien sûr, c'est la migration interne est mm-hmm. un des phénomènes. Je disais avant la migration circulaire, mais ici en Niger, j'ai appris un mot, les exodants.
Exodants, oui. Donc, oui, c'est vrai, on peut
c'est
être
une catégorie, exodant, une catégorie mm-hmm. de la migration. Donc, mm-hmm. Après, je ne veux pas dire qu'il y a une confusion, mais... il y a la migration aussi régulière et irrégulière. Donc, c'est même difficile de parler de migration illégale ou migration clandestine, même si c'est. On l'utilise de façon comme ça, mais quelque chose qui est légal dans un pays peut être illégal
dans
un autre. Pays.
Tout à
donc,
fait.
C'est plus correct, disons, de dire migration irrégulière. Ça veut dire que les migrants, pour migrer, n'a pas suivi les règles, donc il n'a pas les papiers, par exemple, mm-hmm.
Ou n'a pas pris de visa.
Il n'a pas pris de visa, etc. Mm-hmm. Ça, les mots clandestins, par exemple, donnent déjà une connotation très négative, non? Mm-hmm. Comme un criminel, quelqu'un qui a fait quelque chose. En réalité, peut-être, il avait son visa et le visa est dépassé maintenant.
Ouais, donc, maintenant c'est...
Et à ce moment, il devient... Mm-hmm. Donc, tous des cas très particuliers, mais la migration fait partie de la vie, de l'histoire, de l'humanité.
Mm-hmm.
Le Niger est un pays vraiment exemplaire pour ça. C'est mm-hmm. un pays de passage, de transit, le pastoralisme. Donc, toute une histoire riche qui aujourd'hui est devenue, et ça c'est un peu un paradoxe aussi, un problème, mm-hmm. Un problème difficile à maîtriser, même une crise. Qui dérange tous les pays de la Méditerranée ou qui est très, très lié à d'autres situations beaucoup plus critiques comme, par exemple, la Libye à ce moment mm-hmm. ou le nord du Nigeria.
Monsieur le chef de mission, quand on parle du migrant, il faut aussi parler de ses droits. Nous voyons que c'est les cas où il y a de clandestinité, justement, ou de migration irrégulière qui vous cause beaucoup de problèmes à votre niveau. Alors, quels sont les droits des migrants, s'il faut les énumérer, les principaux?
Les droits des migrants sont sont comme les droits de l'homme. Donc, chacun a le droit à migrer, partir,
de quitter,
son pays
et d'aller dans un autre pays.
Aller dans un autre pays, mm-hmm. dans le respect des règles. Et ça, on rentre encore dans la discussion de. En respectant les normes, mais chacun a le droit d'aller et s'installer dans un pays, bouger, on peut dire comme ça, mais tout le monde l'a fait, partir. Évidemment, il y a des obligations aussi, et on revient sur les discours. Personne, ni l'OIM, ni les autres organisations, la communauté internationale peut accepter qu'il y a des violations des droits des migrants ou des droits de l'homme, et dans ce cas, pour les migrants. Si un migrant voyage et seulement parce qu'il est en train de changer d'endroit ou d'aller d'un point A à un point B, personne ne peut exploiter cette situation ou abuser du migrant qui est en train de faire ça. Donc, et là, on rentre dans toute la thématique encore plus difficile et large de l'exploitation de la migration, du trafic des personnes, la traite des personnes, le trafic des migrants. Donc, voilà, tout ça sont des violations des droits des migrants, et l'OIM travaille aussi au Niger en étroite collaboration, par exemple, avec le ministère de la Justice, l'agence pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, la Commission nationale des droits de l'homme, donc pour protéger les migrants et dans toutes les conditions où ils se trouvent, et malheureusement souvent sont des conditions très difficiles.
Oui, on le voit justement, il y a de plus en plus un problème, ce qu'on peut dire même qu'on enregistre de plus en plus des catastrophes par rapport à ces flux migratoires, si on peut le dire. Quelles sont les causes, vous pensez, monsieur le chef de mission?
Bon, et les causes sont les conditions de voyage, la présence des personnes qui sont en train d'exploiter cette situation, donc les personnes qui veulent profiter des migrants vulnérables, ou des femmes par exemple, et des enfants qui sont en voyage. Voilà les problèmes. C'est une situation qui, à ces moments, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas encore des solutions communes ou bien coordonnées entre ici au Niger et dans les pays qui sont intéressés par ces phénomènes.
On voit notamment ceux qui sont en partance de l'Occident, souvent au niveau des bateaux, il n'y a aucune garantie et on enregistre des dizaines, parfois même des centaines de morts.
Oui, et ça c'est un point très critique. On entend toujours, si on peut regarder la télé ou si on entend des nouvelles, même sur les réseaux sociaux, sur la Méditerranée, chaque jour il y a des bateaux en difficulté, des morts dans la Méditerranée, des bateaux qui arrivent, des opérations de sauvetage dans la Méditerranée, etc. Ici, au Niger et dans les déserts, il y a les mêmes opérations qui sont peut-être moins connues. Mais juste pour faire un exemple, dans les derniers 18 mois, plus ou moins, l'OIM et les autorités, ensemble, dans la région d'Agadez, ont sauvé 8000 personnes. En 2018 seulement, 4000 personnes ont été sauvées. Personnes qui se sont retrouvées abandonnées dans les déserts, abandonnées à la frontière, sans eau, 45 degrés, avec des enfants, des femmes enceintes. Donc, vraiment des situations critiques, des véritables catastrophes, même si on ne connaît pas les numéros, non, la chiffre certes de combien de migrants sont décédés dans les déserts, mais malheureusement, ce sont des zones tellement éloignées et tellement difficiles à contrôler que il n'y a personne dans cette zone. Les autorités aussi ont du mal à arriver jusqu'à dans tous les territoires, surtout par exemple le nord d'Agadez. Donc On entend beaucoup des histoires des migrants, mais on n'a pas encore des chiffres certains sur le nombre de personnes décédées dans le désert.
On entend, oui, parfois qu'il y a dans le désert des gens qui meurent de soif, des gens... Toutes ces difficultés nous amènent à vous poser la question, monsieur le chef de mission, de savoir qui est censé protéger les droits des migrants.
Alors, nous, on le dit toujours, et les migrants eux-mêmes sont les premiers qui doivent se protéger et changer un peu cette mentalité qui il n'y a pas de problème ou il n'y aura pas de problème dans le désert, ou même si ils entendent des histoires d'autres migrants qui sont revenus, mm-hmm. qui sont en train de leur dire il y a la prison de l'autre côté, on est resté coincé dans le désert une semaine, tel nombre de personnes sont même décédées dans les voyages. Beaucoup de personnes continuent à quitter. Okay? Donc déjà, ils se mettent dans une condition où c'est difficile de les protéger, numéro un. Numéro deux, tout le monde, toutes les autorités, tous les partenaires ont l'obligation de protéger les migrants dans les déserts. On reçoit, je disais, sur les opérations de sauvetage, ce sont les autorités qui nous appellent, ce sont les migrants même, quand ils arrivent dans les centres quand ils ont le numéro de l'OIM, qui nous appellent et nous disent on a vu un groupe de 50 migrants vers l'arbre du Ténéré, par exemple. Les personnes qui sont en train de faire du commerce dans la zone nous appellent pour dire on a vu qu'il y a des migrants en difficulté là-bas. Donc, il y a un sens de responsabilité aussi à partager avec toutes les autorités. Et après, bien sûr, l'OIM cherche d'avoir toujours les moyens et la coordination pour faire des opérations efficaces, rapides, et vraiment pour sauver les vies, parce qu'un jour dans le désert, à cette condition, peut-être vraiment les derniers jours.
Justement, comment les agents de votre organisation reçoivent les informations relatives à un migrant et à quel moment ils agissent, vos agents?
Alors, on a surtout dans la région d'Agadez, on est à Dirkou, à Arlit, à Agadez, on est prêt à tout moment à mobiliser, à faire partir les équipes mobiles. La direction de la protection civile fait un travail extraordinaire aussi avec nous à Dirkou, à Agadez, non seulement pour les catastrophes naturelles qui déjà c'est leur tâche principale, ils vont dans les déserts avec nous. L'armée aussi qui est dans le nord fait un travail extraordinaire. J'ai visité moi-même les postes de police et de l'armée d'Outimni jusqu'à Madama, après Dirkou. Parfois, ce sont les militaires les premiers qui doivent apporter assistance, qui utilisent leurs mêmes médicaments pour les migrants. Mm-hmm. Et après, l'OIM et les autres partenaires arrivent pour apporter l'assistance. Donc, parfois, comme je disais, ce sont les migrants eux-mêmes qui viennent dans les centres, qui nous donnent l'information pour dire on vient de l'autre côté, on était hier à Samaka et on a entendu qu'il y a encore un groupe de 200 personnes qui est en train d'arriver. Donc avec toutes les informations, l'équipe se prépare et dès qu'on est prêt à partir avec tous les partenaires, on bouge rapidement pour arriver dans l'endroit qui a été signalé. Souvent les migrants ne sont même pas à cet endroit, donc c'est pour ça qu'on les appelle les opérations de recherche. On arrive dans un point, ils sont pas là. Normalement, alentour, on trouve les groupes, ou bien parfois on a trouvé d'autres groupes qui n'étaient même pas signalés, mais qui étaient abandonnés ou la voiture était en panne, et on les a sensibilisés et après ramenés vers Agadez ou Dirkou, Arlit, la ville la plus proche.
Monsieur le chef de mission, quelle différence existe-t-il entre un migrant et un réfugié? Et est-ce qu'il y a similitude entre certaines de vos missions et celles du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on appelle le HCR?
Bien sûr. Bon, et la différence, pour être simple, un migrant est en train de passer dans un endroit à l'autre, il peut rentrer sans problème dans son pays. Il n'y a pas d'autre problème. C'est lui qui a décidé de partir, c'est lui qui peut décider de rentrer. Un réfugié n'est pas dans la même situation.
Il fuit
la
des
guerre,
contraintes.
Parfois des réfugiés politiques aussi. Il y a la guerre, il y a parfois des situations limites.
La famine,
aussi les catastrophes naturelles. Il y a les migrants et les réfugiés climatiques maintenant, comme ils les appellent. Et bien sûr, l'OIM et la CER doivent travailler ensemble. On travaille ensemble. On a des protocoles d'accord entre nous et avec le ministère de l'Intérieur, par exemple. Et on a des mécanismes de référencement. Donc, disons que une personne ne peut pas être en même temps assistée par l'OIM ou la CER. Okay? Donc, si la personne veut rentrer, les conditions sont remplies pour rentrer et c'est la volonté est de rentrer. L'OIM peut les assister. Sinon, la CER a tout le protocole pour la protection internationale, pour l'asile ici au Niger, ou la réinstallation dans un autre pays, là où les conditions sont possibles. Et bien sûr, on travaille ensemble. Pour les déplacés internes, on travaille ensemble. Les mandats sont partagés, OIM et HCR, comme des autres partenaires aussi, peuvent travailler. Et c'est l'exemple à Difa où il y a les communautés hôtes, il y a les réfugiés du Nigeria, il y a aussi les retournés, donc les Nigériens du Niger qui étaient au Nigeria.
Qui sont revenus dans leur pays, c'est vrai, qu'on appelle les retournés. Globalement, monsieur le chef de mission, comment les migrants que vous hébergez sont logés, nourris et traités, et à quel moment ils sont rapatriés?
Alors, dans les centres, on a 6 centres, les centres plus grands et Agadez. Donc, les centres de l'opération et Agadez. À Niamey, on a un centre dédié pour les enfants et les mineurs non accompagnés, un centre dédié aux femmes et un centre pour les adultes et tous les autres migrants. Donc, dans chaque centre, on a une assistance spécifique. Il y a des docteurs, donc des médecins, il y a des psychologues dans les centres. Et les migrants peuvent recevoir 3 repas par jour. Ils sont assistés 100%. Il y a des petites infirmeries aussi dans les centres. Et on s'appuie aussi à l'hôpital, par exemple, d'Agadez ou de Niamey ou d'autres cliniques pour les faire. Donc l'OIM fait le premier soin et après on utilise les partenaires au niveau local. Et on fait des activités psychosociales, par exemple, qui sont très importantes dans la situation où les migrants se trouvent, donc le traumatisme, groupe de parole ou activités sociales. Tout ça dans l'attente de préparer les papiers, les documents de voyage. Donc, environ 4 semaines, mais ça peut dépasser, disons, entre 4 et 6 semaines pour ceux qui arrivent, disons, d'Arlit jusqu'à Niamey et après dans les pays d'origine. Il y a des cas où la durée de l'assistance est un peu plus longue, comme les victimes de traite, quand elles sont identifiées, ou les mineurs non accompagnés, parce qu'il y a le processus qui est beaucoup plus long et articulé avec les pays d'origine. Quand les migrants sont prêts à partir, et c'est toujours une opération volontaire, les centres sont ouverts. Donc, il y a des règles dans les centres. On demande à tous les migrants de s'engager, de nous aider aussi dans les processus. Donc, par exemple, de dire la vérité sur les généralités, leurs données, nom, prénom, etc., nationalité, pour nous aider à faciliter les papiers, la liaison avec les ambassades. À tout moment, un migrant peut décider de quitter, de changer d'avis et dire « bon, je ne veux pas aller ». Mais c'est très rare. Normalement, qui vient à l'OIM a besoin de rentrer, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de force, même de parfois d'espoir pour rentrer chez eux. Et l'assistance continue dans les pays d'origine aussi. Donc après le retour, avec toute la structure de l'OIM dans les pays d'origine, donc OIM Abidjan, OIM Bamako, OIM Guinée-Conakry, il y a l'après-retour, donc les projets de réintégration et réinsertion dans leur communauté d'origine.
Monsieur le chef de mission, qu'en est-il des opportunistes, c'est-à-dire les personnes qui veulent profiter juste pour avoir le statut de migrant? Est-ce que vous arrivez à les démasquer?
Oui, comme dans tous les centres, il y a des règles. Et les règles sont bien expliquées à tous les migrants. Les migrants sont profilés et enregistrés, même avec la biométrie, donc pour nous aider à continuer l'assistance dans les pays d'origine. Par exemple, pour identifier les migrants, je disais 3 repas par jour, tous les services. Donc, à tout moment, les migrants peuvent sortir et revenir dans les centres, mais ils ont une carte qui, pour les identifier. Nous, on dit toujours, c'est l'OIM est là pour aider, pas pour empêcher ou de faire des choses. Ils peuvent rester avec nous dans le respect de la procédure et chacun peut être assisté sans créer des troubles. Et ça, c'est un appel aussi que nous faisons à tous les migrants qui sont à l'écoute, sont hébergés par l'OIM, mais sont dans un pays qui les accueille, dans des communautés qui les accueillent. Donc, parfois, c'est la condition très difficile peut être aussi une cause de petits problèmes au sein de la communauté, mais en général, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension dans les communautés, et les migrants aussi, même si c'est dur, ils considèrent qu'ils sont dans les centres, et après, ils sont en train de préparer leur retour, ils appellent la famille, et à un moment donné, ils sont prêts à partir, ils sont très contents de rentrer chez eux.
Monsieur le chef de mission, est-ce que vous arrivez à bien surveiller les personnes la nuit? Il arrive par exemple qu'on entende qu'il y a des femmes qui sortent. Arrivez-vous à vérifier cela?
Oui, une des règles du centre, c'est qu'à 23 heures, les portes doivent fermer parce que pour des raisons de cohabitation. Il y a quelqu'un, on a eu des cas, mais je pense qu'aujourd'hui, on a assisté à environ 30 000 migrants dans les dernières années. Sur les 30 000, c'est clair que quelqu'un, la nuit, a fait quelque chose et sont partis. Nous, on explique que ce n'est pas la peine de faire ça. C'est mieux, c'est plus sûr de rester avec nous, de ne pas rentrer dans certains problèmes et attendre ou faire des activités avec l'OIM avant, pour préparer le départ. Si quelqu'un reste, on a des procédures. Donc, je disais, les migrants sont identifiés. À tout moment de la journée, on peut compter les migrants qui sont dans les centres pour s'assurer, par exemple, qu'on est en train de donner les nombres exacts des repas, ou pour faire l'approvisionnement des médicaments, etc. Donc, personne n'a l'intérêt vraiment de créer des problèmes pendant le séjour au Niger. Et ça, on essaie d'être très clair, mais il faut comprendre aussi les conditions des migrants.
Nous sommes vers la fin de cette émission. Monsieur le chef de mission, quelles sont les perspectives au niveau de l'OIM à court terme? Selon vous, que faire pour trouver des solutions plus appropriées aux problèmes de migration dans le monde en général et au Niger en particulier?
Je pense qu'il faut faire une discussion très sérieuse et au niveau et de la CEDEAO et de l'Union africaine. Aussi de l'Union européenne. Toujours la migration est décrite comme l'agenda de l'Union européenne, mais moi je dis que c'est plutôt un agenda de l'Union africaine ou bien un agenda à partager ensemble. Malheureusement, ce sont les migrants africains qui sont dans les déserts, qui souffrent, qui se retrouvent dans ce type de conditions et qui ne profitent pas du tout de la migration. Donc, au lieu d'améliorer la vie, ils se mettent dans des conditions encore pires avant de pouvoir rentrer chez eux. Donc, des discussions politiques à très haut niveau sont nécessaires et, bien sûr, des solutions au niveau terrain de chaque pays qui prend la responsabilité pour améliorer les conditions de vie, développement local, travailler avec tous les partenaires qui sont là. Peut-être un jour, je pense qu'on va arriver vers améliorer l'accès vers des autres pays comme l'Europe, avec l'augmentation de la voie légale et des échanges d'études, de travail entre l'Afrique et l'Europe. Ça, c'est toujours quelque chose de très important à considérer.
Merci, monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration. C'est la fin de ce forum du studio Kalangu dans lequel nous avons abordé la thématique les missions de l'Organisation internationale pour la migration OIM au Niger, avancées, contraintes et perspectives. Nous étions avec le chef de mission de l'Organisation internationale pour la migration au Niger, monsieur Joseph Loprêtre, que nous remercions pour sa participation à ce forum. À la c'était Diallo Boubacar, à la technique Seine Saka, au micro Michel Deji. Au revoir et à la prochaine.